Bonsoir tout le monde. Avant que je situe, que je me prononce sur la problématique des signes distinctifs religieux, philosophiques, j'aimerais un peu situer l'Athénée royale d'Anvers dans son contexte et dans l'histoire. Parce que cette Athénée est très profondément enracinée dans l'histoire de Flandre. Cette école secondaire fut fondée en 1807 par Napoléon, qui voulait briser le monopole du clergé sur l'enseignement. Au fil de l'histoire, l'école a joué un rôle important dans les évolutions sociales et politiques qu'a connues la Flandre. Elle était comme prédestinée à voir éclore en son sein, d'une part, l'idée de la libre pensée et de l'autre, celle de la tolérance et du pluralisme avant la lettre. Cerise sur le gâteau, l'Athénée a aussi pu jouer un rôle culturel et a contribué à la valorisation du caractère national flamand. L'école est devenue un foyer à partir duquel allait naître le mouvement flamand. Mais le mouvement flamand qui est né dans ce temps-là à l'Athénée royale était un mouvement émancipatoire, tandis que maintenant on a un peu l'impression que ce mouvement flamand se replie sur cette nationalité flamande. Donc il y a une grande différence historique dans les deux tendances. Et aujourd'hui, en 2009, ce bastion du nationalisme flamand et de la libre pensée est devenu une école multiculturelle, regroupant plus de 60 nationalités. C'est comment ? Oui, non ? Oui. Plus de 60 nationalités. Chaque élève a son propre passé, sa propre conception philosophique, sa propre richesse culturelle, mais aussi ses propres problèmes et surtout son propre avenir. Et c'est cette confrontation des différences qui nous invite à un dialogue permanent au service d'une citoyenneté du monde activement partagé. Par son action innovante en faveur du pluralisme actif, centrée sur la foi en l'être humain, l'Athénée assume à nouveau son rôle de pionnier et d'éclaireur en étant une source d'inspiration pour ses étudiants, professeurs, anciens élèves pour le quartier et pour la ville d'Anvers dans toutes ses facettes. Et quand je parle de la ville d'Anvers, je vous montre quelques cartes qu'on a reçues de la ville et qui nous font savoir d'où viennent nos élèves. Et les cartes suivantes, donc ceci sont les cartes de recrutement, donc où l'on recrute nos élèves. Les cartes suivantes nous montrent l'aspect socio-économique des différents quartiers. Et si on mettait toutes les cartes les uns en dessus sur les autres, ce serait comme un miroir. Et vous verrez que ce sont des cercles vicieux de pauvreté qui se répètent et qui continuent. Et donc la tentation de notre école est de briser ces cercles de pauvreté. C'est pour cela que je parle du coin du voile, hein, parce que derrière la voile, il y a des tas de problèmes socio-économiques de la ville. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. Donc voici la carte du nombre d'immigrés. Et vous voyez que dans le centre, hein, ça colore marron foncé. Hein, ici, l'index de pauvreté, ce sont toujours les mêmes quartiers, les quartiers d'où viennent nos élèves, hein, qui nous indique le taux de pauvreté le plus haut. Le retard scolaire dans les mêmes quartiers. Langue parlée n'est pas le néerlandais, aussi chez nous à l'école, 70% des élèves n'a pas le néerlandais comme langue maternelle. Donc c'est assez haut. Les familles qui vivent d'un revenu de remplacement, également les mêmes quartiers. Travailleurs et chômeurs, également les quartiers avec le nombre le plus haut de chômeurs, même quartier dans le centre. Alors, si l'on compare l'éducation, les écoles à Anvers avec les écoles en Flandre, il y a 43% des élèves des écoles primaires qui ne parlent pas le néerlandais à la maison dans la ville d'Anvers, mais dans le centre d'Anvers, c'est à peu près 63%. À partir de 70%, on dit que le maximum est atteint. Et plus de la moitié dans le centre-ville des élèves sont des élèves GOK. GOK, c'est le décret flamand pour l'égalité des chances dans l'enseignement. C'est un peu l'équivalent des écoles à discrimination positive ici. Le retard scolaire est le double à Anvers que dans le reste de la Flandre. Dans les écoles primaires, presque 30%, dans les écoles secondaires, presque la moitié. Donc presque la moitié des élèves a au moins un an de retard scolaire. Donc c'est en fait alarmant. Ce retard scolaire et ces problèmes socio-économiques ont aussi comme résultat qu'à Anvers, il y a, et aussi à Bruxelles et dans d'autres villes, il y a une grande ségrégation entre dites écoles blanches et écoles mixtes ou écoles noires, zwarte scholen en flamand. Et c'est un peu bizarre parce que le pacte scolaire de 1958, avec comme but d'avoir moins de compétition entre l'enseignement libre et l'enseignement public. Hein, mais comme moi, la ségrégation persiste et de nos jours, parfois j'ai l'impression d'aller vers une nouvelle guerre scolaire avec les problèmes dont on parle de nos jours et avec les grandes différences entre les différents réseaux d'écoles, parce qu'il y a un problème de capacité à Anvers, je crois aussi à Bruxelles, et la lutte qu'on mène, ce n'est pas la lutte pour une place, mais c'est la lutte des écoles pour avoir les meilleurs élèves. Et ça, c'est un peu la ségrégation qui persiste. Si l'on analyse les élèves de l'Athénée Royal, on voit qu'avec notre projet pédagogique, il y a presque 80% qui a au moins une année de retard scolaire. Quand on regarde les indicateurs socio-économiques de nos élèves, ce qui me rend un peu inquiète, c'est surtout le diplôme des mères. 73% des mères n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire. La langue, plus de la moitié, donc 71%, a une autre langue que le néerlandais à la maison. La résidence, les quartiers que je vous ai montrés, sont aussi des quartiers avec des quartiers avec un grand nombre d'habitants avec un niveau socio-économique très, très bas, des bourses d'études 60% et des élèves GOC également plus de 70%. Qu'est-ce qu'on fait à l'école, hein? Notre projet pédagogique s'appuie sur trois piliers et le premier pilier est le pluralisme actif. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de vivre ensemble dans la diversité à travers un cycle de quatre thèmes. Je vous expliquerai plus tard quels sont ces thèmes et pourquoi. Et on mène un dialogue permanent entre culture, conception philosophique et communauté. Donc je me fixerai aujourd'hui surtout sur ce pilier 1. Le pilier 2 est un champ d'expérimentation qui a comme but de favoriser le passage de nos élèves d'un cycle à l'autre et d'éliminer le retard scolaire et de déployer leurs talents. Et le troisième pilier, c'est que nous sommes une école large, une école ouverte, c'est la cause pour laquelle je suis ici. L'école est une mini-société avec un vaste réseau de participants externes et des relations continues avec la société. Alors ce pilier 1, sur le pluralisme actif, on l'a instauré au cours d'un cycle de quatre thèmes, des thèmes universels, temps, choix, espace et l'être humain. Et on a lié des projets autour de ces thèmes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi des thèmes universels? Parce que les thèmes universels sont importants pour tout le monde, pour les professeurs et pour les élèves, parce que chaque être humain doit, dans le temps et dans l'espace, faire des choix nécessaires pour évoluer vers une citoyenneté universelle, notre but. Donc, au projet de temps, on a lié un projet autour de l'absentéisme sur la gestion du temps et la planification. Le thème du choix est très important ici. Ça reflète non seulement sur les orientations scolaires, mais ce thème est aussi important pour la liberté individuelle et les libres choix. L'espace, dans le thème espace, on se concentre sur la réalisation de la réciprocité dans le respect mutuel. On ne parle pas de tolérance à l'école, on parle de réciprocité dans les relations humaines. Et un dialogue interphilosophique et culturel. Et l'être humain, c'est toute la politique GOC et le suivi socio-émotionnel de nos élèves. Donc, de la tolérance à la réciprocité est un ensemble de valeurs communes. Parce que, et c'est ce que je dis souvent, le pluralisme actif n'est pas totalement libre. Le pluralisme actif, ça ne veut pas dire que tout est permis. Au cours des années, on a défini un socle commun de valeurs de base fondamentales. Et ces valeurs sont les droits universels de l'homme, le respect mutuel, le libre choix, la liberté individuelle, la liberté d'expression, l'égalité des sexes, la séparation de l'Église et de l'État et la libre recherche scientifique. Et c'est justement parce que ce socle commun de valeurs de base est au centre qu'on est arrivé à cette interdiction de signes philosophiques. Parce que ceci, c'est notre Bible, pour dire. Et on est très confiant à ce socle. C'est pour cela que je dis toujours que le message clé du voile, c'est que le voile masque des questions sociales, économiques, culturelles et émancipatrices. Et j'ai essayé de vous montrer par les chiffres. Prenons les chiffres des conceptions philosophiques et religieuses en école. Alors, vous voyez que dans une période ici, à partir de 2007 jusqu'à 2009, le nombre d'élèves musulmans a augmenté très fortement. Donc, vous voyez ici les différentes religions et les pourcentages. Donc l'islam, la religion israélite, la religion catholique, la confession morale, la religion orthodoxe et la religion protestante. Donc cette année-ci était des années très cruciales dans le développement de notre projet pédagogique. Et le hasard voulait que, justement, dans ces années-ci, on traitait le thème choix à l'école, comme fil rouge. Et on voulait donc aider nos élèves à développer un sens critique et faire des choix personnels. Et on a vu qu'il y avait des confrontations et que la pensée horizontale, donc chacun doit faire son choix personnel, et critique de Descartes qu'on essaye d'enseigner dans les écoles, s'opposait à la pensée verticale et patriarcale de certaines cultures qui vivaient dans notre école. Et ceci parce que dans la vie, et c'est ce qu'on dit à nos élèves, on est amené à tout moment à faire des choix. Ceci est très important dans notre projet pédagogique. Les choix sont importants dans le processus éducatif pour la formation des personnes et des personnalités. Chaque choix a ses conséquences et chaque être humain a ses raisons de choisir. Choisir, c'est aussi vouloir. Celui qui ne choisit pas ne sait pas ce qu'il veut. Celui qui ne choisit pas situe la responsabilité en dehors de lui-même. Alors, lors de cette forte augmentation du nombre de jeunes musulmans, on voyait que l'égalité et la liberté de nos élèves étaient d'un jour à l'autre compromises dans certaines situations. Ils ne voulaient plus participer aux cours de gymnastique, à la natation, aux bals scolaires, aux excursions. Et sous pression sociale, des élèves se sentaient obligés de porter des symboles politiques et religieux, c'est-à-dire le voile. On allait encore plus loin parce qu'on mesurait le degré de croyance, le degré de religiosité à la longueur et à la couleur du voile. Donc, j'ai mené des discussions à propos de cette longueur, de cette couleur. Ceci a eu comme conséquence que des élèves non musulmans quittaient l'école et que également le choix des études de certains élèves dépendait de pouvoir porter le voile. Ils ne voulaient plus quitter l'école, même quand il n'était plus capable, il ne voulait plus quitter l'école juste à cause du fait qu'il pouvait encore porter le voile. Alors, on a essayé d'expliquer ça, et on l'essaye encore de nos jours, à l'aide d'un modèle de Jan Geurts, hein, qui dit qu'il y a une faute environnement, que l'environnement, le contexte est très important pour le comportement des jeunes, de chacun. Hein. Chacun a ses capacités, c'est le niveau plus haut. Et ce sont ces trois niveaux primaires qui aident à définir, à trouver des valeurs et des convictions dans la vie, pour avoir une identité et une mission dans la vie. Ce qui se passe avec des élèves qui vivent dans différentes cultures, c'est qu'au quatrième niveau, ils se sentent un peu bouleversés, surtout à l'âge de l'adolescence, hein, quand ils sont en train de trouver leur identité. Ils se trouvent dans deux mondes divers, hein, deux mondes différents, avec différentes valeurs et différentes convictions. Et ça arrive aussi à des enfants qui vivent dans un mariage divorcé. Parfois, quand la mère et le père ont des valeurs, des convictions différentes, il y a cette crise d'identité. Et ce qui se passe, c'est à ce quatrième niveau, il y a des mouvements radicaux dans la ville d'Anvers qui interviennent par des sites internet et qui radicalisent ces jeunes filles. J'ai vu passer ce phénomène-ci deux fois. Parce qu'il y a deux ans, on a eu un jeune garçon qui était parti pour la Syrie. Et en fait, c'était deux fois le même processus que j'ai observé. Hein? Donc, ils sont en train d'hésiter, de trouver une identité. Et puis, tout à coup, il y a ces mouvements qui, avec de mauvaises intentions, qui commencent à influencer ces jeunes gens. Et qui ainsi radicalise ces gens. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai interdit le voile. Alors, en juin 2009, j'ai pris cette décision qui n'était pas facile, mais c'était une décision afin de protéger tous nos élèves, afin de protéger la liberté individuelle de chacun, parce qu'il y avait des élèves qui quittaient l'école, il y avait la pression, hein, pour protéger le libre choix de chacun et également afin de protéger la liberté de religion. Ceci a eu comme conséquence une longue histoire juridique que je vous explique en quelques mots. La Constitution a dit que les communautés sont chargées d'organiser l'enseignement neutre. La communauté flamande l'a fait de façon différente que la communauté française. La communauté flamande a écrit le décret spécial, het bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs, le décret spécial de l'enseignement flamand sur l'enseignement public. Et le conseil central du GEO, donc de l'enseignement, a écrit un projet pédagogique et une déclaration de neutralité, pas de laïcité, de neutralité. Et au cours des années, ce projet pédagogique et cette déclaration de neutralité ont été réécrites en fonction du pluralisme actif avec ce socle de valeurs communes que je vous ai expliqué avant. En juin 2009, donc, j'ai pris la décision d'interdire ces signes distinctifs philosophiques afin de protéger tout le monde. Et en septembre 2009, il y avait une demande de suspension de quelques élèves au Conseil d'État. Le Conseil d'État suspend l'interdiction et se réfère à la Cour constitutionnelle concernant la compétence. Donc le Conseil d'État a demandé à la Cour constitutionnelle qui est-ce qui peut prendre cette décision. Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le conseil du gouvernement ou est-ce que c'est le gouvernement flamand? Ça a duré deux années pour la réponse. Le 15 mars 2011, on a eu la réponse de la Cour constitutionnelle qui disait « Le Conseil du Rio peut prendre cette décision ». Pendant ce temps-là, la procédure au Conseil d'État a continué. Le 11 septembre 2011, le Conseil d'État annule la suspension. En février 2013, le Conseil central du Rio prend la décision d'une interdiction de signes distinctifs philosophiques dans toutes ses écoles à partir du 1er septembre 2013. Pendant l'année scolaire 2013-2014, il y avait de nouvelles demandes de suspension d'élèves sikhs dans Olimbourg concernant la liberté de religion et il y a aussi un recours d'annulation, en annulation. Le 14 octobre 2014, le Conseil d'État annule avec double N l'interdiction imposée aux élèves sikhs de porter des signes distinctifs philosophiques visibles inscrits dans le règlement scolaire. Selon le Conseil d'État, et c'est un peu bizarre parce qu'avant, le Conseil d'État a dit non, ça ne peut pas être une décision d'une seule école, il faut que ce soit une décision qui est prise à un niveau plus haut, soit le gouvernement, soit le Conseil du Rio. Donc, selon le Conseil d'État, l'interdiction généralisée a été introduite par le Rio à la suite de problèmes aigus survenus dans deux écoles anversoises, l'Athénée d'Anvers et l'Athénée de Hoboken. C'est correct. Ils disent aussi que l'école des Sikhs, au Limbourg, n'a pas connu l'interdiction avant, et ne se trouvait pas, ne risquait pas de se trouver dans une situation problématique telle que l'Athénée d'Anvers, ce que je viens de vous expliquer, ou l'Athénée Hoboken. Ça peut être, je ne sais pas. Mais il est important que, dans son arrêt du 15 mars 2011, la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée, jusqu'à maintenant on ne s'est pas encore prononcée, sur la comptabilité de l'interdiction avec la liberté de religion. L'introduction dans le règlement scolaire d'une interdiction de porter des signes distinctifs doit répondre aux conditions de l'article 9 de la Cour européenne des droits humains. Cette Cour européenne autorise une ingérence dans la liberté de religion et si on a une interdiction, cette interdiction doit être prévue par la loi, ce qui est le cas, viser une des finalités qu'ils ont énumérées dans leur arrêt de manière limitative. Les finalités pourraient être la liberté de religion, la liberté de chacun, éviter le prosélytisme, et peut-être nécessaire dans une société démocratique, par exemple, protéger l'ordre public, éviter le prosélytisme. C'est ce qui se trouve dans ce dernier arrêt. Alors, je vous explique tout ceci pour vous montrer que sous le voile se cachent des questions sociales, économiques, culturelles et émancipatrices telles que la migration-mariage des jeunes hommes qui me disent « Madame, je vais chercher, qui ont étudié, je vais chercher mon épouse au Maroc. » Et ça continue, ces trucs-là. Entre-temps, il y a beaucoup d'exemples. J'ai parmi mes professeurs beaucoup de mariages mixtes et je le fais comme exemple pour faire voir aux élèves qu'il ne faut pas tenir ça tellement strict. Il y a les problèmes de langue qui sont un problème. La liberté individuelle. Je ne suis pas contre le voile. Chaque femme a le droit de porter le voile et de faire son propre choix. Mais je suis contre la pression et la manipulation. Il y a le problème de l'égalité, la fraternité, le problème de la double identité que je viens de vous expliquer, l'UMA digital, donc ces sites radicaux qui se trouvent sur Internet, et l'identité musulmane transnationale. J'ai participé à une recherche de la Fondation Roi Baudouin et j'ai fait le même questionnaire dans mon école. Et si l'on pose des questions sur l'identité, est-ce que vous êtes belge, flamand, anversois, turc, marocain, musulman, la conclusion est toujours que l'identité religieuse c'est aussi le fait pour des catholiques, hein, l'identité religieuse est toujours l'identité la plus, le fait, l'identité la plus forte chez les élèves et chez les interrogés aussi dans cette recherche de la Fondation Roi Baudouin. Alors la liberté individuelle s'arrête là où commence le bien commun. Donc ce que j'ai fait à l'école, ce qu'on fait chaque jour, c'est balancer entre ces libertés, et c'est pas facile, hein. C'est à cause de cela que je dis qu'il y a un paradoxe très bizarre, parce que le voile est à la fois symbole religieux, symbole culturel, symbole politique. Ça risque de devenir un symbole politique trop grand, parce que ça date déjà de 2008-2009, on est maintenant presque 2015, c'est 6 ans, hein. Et il y a des partis politiques qui changent de position, symbole de liberté, symbole de menace, symbole de sexe et symbole de résistance aussi. Je voudrais aussi référer comme conclusion au droit européen qui dit que la liberté de culte n'est pas absolue et peut être limitée par la loi, que je viens d'expliquer, dans une société démocrate avec un but légitime supérieur. Ce but, dans mon école, est l'égalité, l'émancipation, la liberté individuelle, la liberté de religion également. Et la restriction doit être proportionnée au but poursuivi. Et pour cette dernière chose, je pourrais vous dire, après 5 ans d'interdiction, il n'y a plus de liberté de religion dans mon école. On ne se sent plus menacé. On ne discute plus d'aller nager, on ne discute plus de faire de la gymnastique ou de faire des excursions. C'est très bizarre, hein, en notant un symbole, que toutes ces choses deviennent d'un moment à l'autre plus. C'est très bizarre, mais c'est le fait, c'est la réalité. Donc c'est pour cela que l'interdiction des symboles philosophiques, hein, distinctif, peut être plus une protection de la liberté de religion qu'une restriction. Je fais un plaidoyer pour l'interdiction générale sur les signes politiques et religieux ostensibles dans l'éducation obligatoire flamande, française, belge, hein, en termes d'égalité, libre choix et égalité des chances et un maximum de répartition. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut revoir le pacte scolaire ? Faut-il un nouveau pacte en termes de relations avec les musulmans, oui ou non, hein? Et est-ce qu'il faut reconsidérer les cours philosophiques dans l'enseignement obligatoire, hein? Est-ce qu'il faut donner une heure de choix de cours philosophiques et une heure de religion du monde pour faciliter, pour donner à ces élèves un regard plus ouvert au monde, hein? Dans mon école, on a ces différentes conceptions philosophiques. Et les professeurs se mettent ensemble, ils font un projet interreligieux, interculturel, interphilosophique, et ça aide à ouvrir le regard de nos élèves. Et c'est ça notre but, pour d'en faire des citoyens universels. Mais je me réalise, et je fais ceci dans toute la Belgique pendant 5-6 années presque, hein, que c'est un nouveau BHV, Boeddhismenhoofdoekvrijheid en irlandais. Parce que jusqu'à maintenant, même le pouvoir le plus haut de notre pays n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Aucun gouvernement n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Mais je parle de la pratique, et je pense qu'il faut faire des accords pratiques. Il faut respecter chaque conception, chaque individualité, mais peut-être, hein, et on arrive là au titre de cette soirée, hein. Peut-être nous devons revoir tout et installer la laïcité en Belgique, mais ça, c'est un long chemin. Il ne s'agit pas de penser une vision, mais bien de la découvrir, et c'est ce que j'ai fait.